Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous présenter un roman comme on n'en fait peut-être plus, un roman traduit de l'hébreu, La Vengeance de Fanny. L'auteur s'appelle Yaniv Itzkovitch et le traducteur, que je salue, un jeune traducteur très prometteur, Jérémy Alouche. Le tout est publié chez Gallimard dans la collection du monde entier. Alors cette vengeance de Fanny est traduite, je l'ai dit, de l'hébreu, mais en hébreu, le titre est tout autre. Le titre est Tikkun Achar Chatzot, autrement dit, réparation d'après minuit. Je vous laisse un petit peu cogiter ou vous demander quel est le rapport entre la réparation d'après minuit et la vengeance de Fanny, et j'y reviendrai tout à l'heure. Aux confins de l'Empire russe, dans la Polésie de la fin du XIXe siècle, les hommes des Shtetlers abandonnent parfois leurs femmes pour se fondre dans la foule des grandes villes. Et lorsque Mende Speismann, désespérée par le départ de son mari, se jette dans la rivière Yaselda, sa sœur, Fanny Kaisman, prend les choses en main. Elle ira elle-même retrouver son beau-frère, quoi qu'il en coûte. Celle que l'on surnomme des Veldechaye, c'est-à-dire en yiddish la bête sauvage, s'éclipse au milieu de la nuit avec l'aide de Gégek, le passeur taciturne du fleuve, en laissant derrière elle mari et enfant. Le duo s'engage dans une aventure aventureuse, c'est moins qu'on puisse dire. En route pour Minsk, ils seront rejoints malgré eux par deux compagnons peu recommandables, un chazan, un chantre errant, juif, à la voix assez stridente, et un ancien camarade d'armée de Žižek qui tient une auberge qui ressemble plutôt à un bordel. Prise en embuscade, poussée au meurtre, poursuivie par la police secrète du régime tsariste, que va-t-il leur arriver? Eh bien, vous le saurez, en vous plongeant avec délices dans ce roman, plein d'humour, plein de panache, où l'héroïne absolument inoubliable, Kefani, vous surprendra plus d'une fois. Alors, un petit peu historique de ce roman, paru en 2015 en Israël, qui reçoit le prestigieux prix Agnon et dont la localisation non seulement est en Biélorussie, donc pas en Israël, vous l'aurez deviné, mais en plus, nous sommes au milieu du 19e siècle, ce qui est tout de même assez rare pour un roman israélien, un roman en hébreu, contemporain. On a l'impression que l'auteur a voulu s'amuser à emboîter des histoires les unes dans les autres, et bien sûr, on ne peut s'empêcher de penser aux histoires de poupées russes de Babouchka. C'est un roman central qui se situe à la fois entre histoire et philosophie, on pourrait peut-être parler de fable historique, une saga, dont l'héroïne, Fanny, est une ancienne shochetet. Alors, ce mot n'est jamais utilisé au féminin, puisqu'en général, et je veux dire dans 99,9% des cas, le shochet, c'est-à-dire l'abatteur rituel, est un homme. Or, Fanny a reçu de son père l'éducation pour être justement une abatteuse rituelle, si je puis traduire cela en français. Elle est mariée à un homme qu'elle aime, elle est mère de famille, et elle va abandonner temporairement sa famille pour accomplir ce qu'elle considère comme être un acte de justice. Donc je l'ai dit, son beau-frère Tzvi Meir a disparu, a laissé Mende, sa sœur aînée, désespérée, et Mende est tellement désespérée qu'elle se noie dans la rivière. Donc nous allons suivre, nous lecteurs, les tribulations de Fanny, qui part à la recherche de Tzvi Meir, armée de son chalaf, donc ce couteau tout à fait spécifique du shochet, hein, dont le nom n'évoque d'ailleurs que ce couteau-là, hein, chalaf qu'elle porte en permanence sur sa cuisse gauche. Et fort heureusement, parce qu'il permettra tout de même de sortir, comme on le verra tout à l'heure, de situations délicates. Une intrigue s'entrelace à la première, et c'est celle évidemment de la police secrète qui enquête sur la longue file de meurtres que cette quête de justice va laisser derrière elle. On assiste en outre à la vie des Juifs dans les Shtetler, à la vie des soldats de l'armée russe à la suite de la guerre de Crimée, où la Russie a été vaincue en 1856 par l'Empire ottoman, la France et le Royaume-Uni. La Russie déjà en quête d'expansionnisme, pour utiliser un terme peut-être anachronique pour l'époque, mais qui n'en résume pas moins la réalité. On a également, de façon truculente, des dialogues entre un vieux cheval et son ami, jeune étalon fougueux. On a une belle-mère querelleuse et vindicative, un chazan, donc un chantre qui chante faux, on peut le dire, qui est spécialiste de l'hymne Adon Olam. On a un personnage de sourd qui s'exprime dans une langue tout à fait incorrecte. Et puis, au sortir de tout cela, ou plutôt au milieu de tout cela, parce qu'on n'a surtout pas envie d'en sortir, une sensation d'émerveillement devant une œuvre littéraire savoureuse. Et là, le lecteur est vraiment saisi. Ce roman est né chez Yaniv Itzkovitch d'un sentiment de sorte de révolte, on va dire, devant la grande histoire qui a effacé toutes ces histoires minuscules du judaïsme ashkénaze. Et ce sentiment de révolte a mené notre auteur à lire la presse juive du XIXe siècle, une presse à la fois écrite en yiddish et en hébreu. Et il tombe un jour sur un article dans le Magid. Le Magid est le premier journal, je dis bien journal et non pas revue, le premier journal en langue hébraïque qui naît, qui est publié en 1856. Et dans ce Magid, il tombe sur une annonce véridique, appel désespéré d'une femme malheureuse, la supplication d'une épouse, Aguna, c'est-à-dire une épouse enchaînée, car son mari l'a quittée, est partie, en tout cas, sans laisser d'adresse, et surtout sans lui donner ce document précieux qui pourrait la délier de ce mari pour qu'elle puisse refaire sa vie, qu'est le guet, le divorce dans le judaïsme. Et voici, je vous livre la lecture de cette supplique que cette femme fait paraître dans ce journal hébraïque, extrait de Hamagid, numéro 6, jeudi 2 Adar, 5654, 8 février 1894. L'appel d'une désespérée. J'implore les honorables lecteurs d'avoir pitié de moi, une pauvre femme délaissée, que son homme a quittée pendant Pessah, en pleine semaine de fête, 5 ans tout juste après notre mariage, alors que nous avons 3 enfants, tous en bonne santé. Il m'a mandé auprès de lui alors qu'il se rendait à Pinsk pour gagner de quoi nourrir les siens et je l'ai accompagné jusqu'à Sukkot. Aujourd'hui, il a disparu sans laisser de traces. Il aurait été vu dans une auberge à Minsk, paraît-il, puis dans un train pour Kiev. Je suis anéantie, démoralisée, tourmentée, dans le dénuement le plus total, sans personne pour venir à mon secours. Voilà pourquoi je m'adresse à vous, honorable lecteur. L'un d'entre vous saurait-il où se trouve mon époux? Si tel est le cas, par pitié, tâchez de lui extorquer un acte de divorce en bonne et due forme. Je suis prête à offrir jusqu'à 150 roubles à celui qui me libérera de ce fardeau. Voici son signalement. Il s'appelle Meyer Yankel Hirsch, originaire de Droïchtchin, âgé de 24 ans, taille moyenne, cheveux bruns et bouclés, barbe claire, yeux verts. Sa mère et l'un de ses frères résident à Ujlani. Je sous-signais, suis la plaignante Esther Hirsch, fille de Shlomo Weisselfisch, un homme juste, de mémoire bénie. Voici donc cette supplique qui vraiment tirerait des larmes à tout un chacun que Mende donc Esther Hirsch fait paraître dans le Hamagid. En fait, Yanni Vitskovitch, dans une interview dans le journal Haaretz, explique qu'il a voulu d'abord montrer comment vivaient les Juifs au XIXe siècle. Il raconte que lorsqu'il est allé sur place, en Biélorussie en particulier, pour enquêter, eh bien, les gens, les vieilles personnes, ne lui parlaient que de la Shoah. Et lui aurait voulu entendre, non pas la façon dont les Juifs sont morts, car cela est, hélas, beaucoup documenté, mais comment ils vivaient. Et ce qu'il a découvert, en particulier grâce à cette presse juive, c'est que la plupart des Juifs vivaient dans les Shtetlers, aux côtés de la population locale, bien sûr dans une ambiance sporadique d'antisémitisme et de pogrom, mais pas seulement. Hein. Il y avait aussi des liens qui pouvaient se tisser, comme il le montre dans son roman. Pour Itzkovitch, il n'est pas entièrement juste de dire que le peuple juif a été uniquement malheureux et uniquement persécuté pendant ces 2000 ans de galoute, donc d'exil, mais qu'il faut également parler, évoquer l'immense richesse de cette vie juive de tous les instants. Il met ses... En fait, il imprime ses pas dans la lignée, évidemment, des grands romanciers de la littérature yiddish. Mendele Mocher Sfarim, je vous renvoie à la Haridel et à l'Anneau Magique, et bien sûr à Sholom Aleichem, dont les œuvres traduites en français ne se comptent plus. Yanni Vitskovitch est lui-même de formation philosophique, puisqu'il a fait un doctorat sur le philosophe Ludwig Wittgenstein. Il a étudié à Oxford et a fait son post-doctorat à la Columbia University à New York. Et Yoram Kanyuk, le grand écrivain hébraïque disparu aujourd'hui, Yoram Kanyuk a dit de lui qu'il y avait en Yaniv Itzkovitch quelque chose de la magie, hein, de l'enchantement, qui fait de lui un des plus grands écrivains, un des plus grands auteurs de l'époque actuelle. J'aimerais poursuivre avec un dialogue, et pas uniquement un dialogue, mais une présentation de l'héroïne de Fanny. 2 mois à peine après le départ de Tzvi Meyer, Fanny avait dépassé les bornes en suggérant à sa sœur aînée, donc la fameuse Mende abandonnée, de venir s'installer chez elle, au village. Les enfants seront si contents d'être ensemble, ma sœur et nous aussi d'ailleurs. Mortifiée, Mende rétorqua alors que la vie à la campagne n'était pas faite pour elle, et encore moins pour Yankele et Miru, marmonnant entre ses dents le mot « weit », qui signifie « perdu, isolé, voire paumé ». Fanny ne répondit pas, mais Mende était sûre que sa sœur avait saisi ce qu'elle voulait dire. Peu, quel genre de juif habitait dans un hameau de nos jours? Il fallait être fou ou asocial. Depuis quand ce qui était bon pour la majorité des juifs ne l'était pas assez pour eux? Qu'avait-il à reprocher à Motley, une vraie ville qui comptait une synagogue, un cimetière, un bain public et un mikvé, bain rituel? Qu'avait-il à faire avec des goyim, des non-juifs, au beau milieu des champs et des tourbières? Et qui protégerait leur maison des brutes antisémites? Weit, répéta Mende, alors que Fanny feignait de ne pas entendre. Parfois je ne comprends pas, Nossenberl, ajouta Mende. Pourquoi vouloir habiter dans un village? Lancer le nom de Nossenberl dans la conversation était une erreur, un peu comme tirer un peu plus sur une corde déjà prête à se rompre. Fanny lui jeta un regard froid et impénétrable, celui d'une femme capable de décapiter sa sœur aînée sans sourciller. Mende paniqua au point de s'assurer que les mains de Fanny étaient bien à leur place et non sur le manche de son couteau. Mende savait que Fanny dissimulait sous sa robe la lame offerte par leur défunt père, lequel les avait élevés seuls après que leur mère eut reçu une convocation urgente du Très-Haut. « Nossenberl sait ce qu'il fait », répliqua Fanny. Manda ne s'expliquait pas le chidr de sa cadette, c'est-à-dire le mari qu'on lui avait proposé, et encore moins que leur couple soit épanoui. Nelson Berl Kaisman était un grand costaud, un Goliath plutôt qu'un David, dont les silences étaient vus comme une preuve de sagesse par ses proches et une faiblesse d'esprit aux yeux des autres. Il avait la peau tannée d'un goy et la chair épaisse d'un ivrogne. Une toison noire recouvrait sa nuque et courait le long de ses bras jusqu'à ses phalanges. Chaque jour, il se levait à l'aube pour s'occuper de ses chèvres et de ses brebis, produisant avec leur lait d'excellents fromages réputés dans toute la région. Kaisman, le fromager. Quand Mende et Zwiemeier venaient les voir à Upirava, ils attendaient avec impatience le moment où le mari de Fanny apporterait le plateau triangulaire en bois, garni de tranches de fromage qui fondaient en bouche et ramollissaient l'esprit. Jaune, vert et bleu, amer ou épicé, gras et fermenté, trop savoureux pour appartenir à ce monde, trop raffiné pour des papilles juives. Mende n'osait pas rapporter à Fanny les rumeurs qui couraient à leur sujet. Le Shabbat et les jours de fête, les Kaisman venaient à la synagogue de Motley, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il grêle. Et bien que reçus avec froideur, ils prenaient des nouvelles les uns des autres sans se départir de leur sourire. Les rumeurs allaient bon train. On disait que les Kaisman s'acoquinaient avec les goïms et les pauvres, pas seulement pour le commerce, qu'ils rendaient visite aux gentils avec leurs enfants, festoyaient avec vin et fromage et bavardaient dans un jargon mélangeant yiddish, polonais et russe. On disait encore que leur maison était faite de briques et n'était recouverte de bois que pour conjurer le mauvais œil. On affirmait qu'ils avaient tant d'argent qu'il leur sortait par les oreilles. On murmurait qu'ils avaient installé dans la cour arrière un cabinet d'aisance avec 5 ouvertures latérales pour la ventilation et un tonneau enfoui dans le sol avec lequel ils fertilisaient leur potager une fois l'an. On croyait savoir que Fanny connaissait déjà la langue des locaux, qu'elle parlait désormais couramment le polonais et le russe, alors que son mari ne connaissait pas un mot d'hébreu. Il se balançait en prière à la synagogue, pareil à une tige de blé au vent. Le goy l'aime en personne. On racontait que Mende désavouait ses histoires malveillantes et défendait sa sœur bec et ongle. Comment l'âme d'un juif pouvait-elle se mêler à celle d'un gentil? Or, tout le monde croyait que les Kaisman avaient tourné kazakh, de vrais caméléons. S'ils avaient vécu à Berlin ou à Minsk, ils auraient depuis longtemps suivi les descendants de Moïse Mendelssohn et seraient devenus chrétiens. Mende n'ignorait pas que les racontars l'emportaient parfois sur la réalité. C'est pourquoi elle avait poliment décliné l'invitation de Fanny à emménager chez eux au village. « Zwiemeier finira par rentrer à la maison un jour ou l'autre, » déclara-t-elle à sa jeune sœur, avec une foi inébranlable. « Tu sais comment il est. Il ne se contente pas de l'à peu près, même s'il l'a voué à finir marchand plutôt que savant, il, c'est-à-dire Dieu. Il est normal qu'il veuille développer son affaire. Que dirait-il s'il apprenait que ses enfants sont partis au village, sont devenus des yeshovnikim, c'est-à-dire des juifs des villages ?» Donc voilà un petit peu un premier portrait, un portrait évidemment entre les lignes de Fanny et de son mari. Et voici à présent une scène qui va vraiment nous mettre au cœur du sujet lorsque Fanny décide de partir à la recherche de Zwiemeier alors que sa sœur a fini par se noyer de désespoir dans la rivière Yaselda. À minuit, la route était presque déserte et les paupières de Zizek commençaient à cligner de fatigue. Il essaya d'abord de se donner quelques tapes et de se mouiller le visage, mais à défaut d'améliorer son état, il se mit sur les genoux et s'adressa un coup de poing en pleine mâchoire. Fanny voulut le relayer, elle était tout aussi capable de s'orienter avec l'étoile polaire, mais Zizek resta en place sur son siège, une bouteille de rhum à la main, et, à l'instar de ses ivrognes véhéments, se mit à presser l'allure des chevaux. Voyant un chariot à ridelles chargé de sacs de céréales arriver à leur hauteur, Zizek ralentit immédiatement l'allure et dériva vers l'accotement.
Le véhicule était occupé par un couple. Ils les saluèrent de la main et leur souhaitèrent la bonne fortune. « Où allez donc ? Où allez-vous donc, braves gens ?» demanda la femme, le visage dissimulé presque jusqu'aux yeux par un foulard. Fanny, sûre du fait que Gégec serait toujours aussi peu loquace, répondit à sa place. « À Minsk. »« Et d'où venez-vous, bonnes gens ?» répondit la femme, intriguée. « De Minsk. » Gégec refréna les chevaux afin que les paysans les dépassent. Mais ces derniers se mirent eux aussi à ralentir et continuèrent de rouler à leur niveau. Un long moment s'écoula, épiement réciproque. Gégec dénombrait à la hâte les possibles voies d'issue. S'il avait été plus vigilant, il aurait bifurqué avant qu'il ne soit trop tard. À court d'une meilleure option, il prit alors le risque d'arrêter la telega sur le bord de la route. À leur plus grand désarroi, les paysans s'immobilisèrent également au milieu de la chaussée, de manière à leur bloquer le passage. « Un chargement à livrer ?» demanda la femme. « Oui, répondit Fanny en polonais, des pommes de terre. » Gégec lui fit signe d'interrompre immédiatement la conversation. « Prenez garde, chers amis, intervint l'homme. » Ses joues rasées reflétaient l'éclat de la lune tandis que ses yeux étaient dissimulés dans l'ombre de sa visière. « Nous avons déjà été attaqués deux fois sur cette route, j'espère que vous êtes armés. Ce coin de Tel Khan, il ne manque pas de barbares. » Cet avertissement accentua encore la méfiance de Gégec, qui empoigna sa cravache. Le plus âgé des chevaux tressaillit. « Votre cheval a l'air fatigué, lâcha la femme. Le deuxième a l'air justement plus vif, commenta l'homme. Mais quel coursier ! T'as déjà vu un canasson pareil ? Non, Radek, pas un si beau. Quelque chose ! S'exalta l'homme tout en sifflant d'enthousiasme. Un aussi noble destrier pour tirer de la pomme de terre ! « Vraiment un sacré cheval !» approuva la femme. « En échange du cheval, on est prêt à vous laisser les patates !» gloussa le dénommé Radek. Sa comparse s'étrangla de rire. « Qu'en dites-vous, bonnes gens ? » dit-elle tout en mettant le pied à terre. Gégec frémit. « Ils disent rien, Radek. Ils ont peut-être gobé une patate. Peut-être bien qu'ils cachent quelque chose. V'là-t-il pas que ce serait des gides ?»« Juifs. Youpin. » en russe ou en polonais. Questionna la femme tout en s'approchant de Fanny et Gégec. « L'accent de cette femme me paraît bien saugrenu, lança Radek. Qui pourrait bien dire Miansk pour Minsk ? Peut-être quelqu'un qui n'est pas de Minsk, Radek. Peut-être quelqu'un qui parle pas polonais, ma douce. » Gégec sauta à son tour à terre, la cravache toujours en main. Profitant de l'obscurité, il tenta de dételer les chevaux de leur timon afin que lui et Fanny puissent s'enfuir sur leur dos. « Non, Radek, pas des gîtes, peut-être. Ils sauteraient pas si vite de leur charrette. Des gîtes, ils restent figés sur place. » Quelque chose se mit à bouger entre les sacs de grains chargés dans la ridelle des paysans. Et soudain, deux jlobes, solidement bâtis et peu commodes, en jaillirent avant de venir rejoindre Radek. La femme, quant à elle, se tenait face à Fanny et Gégec. Son visage découvrait désormais deux rangées de chicots délabrés. « Pour faire simple, on veut votre marchandise. » « Et la téléga avec !» ajouta Radek légèrement en retrait. « Sans oublier le cheval, lâcha l'un des deux jlobes d'une voix endormie, un sacré canasson !» Les trois hommes se regroupèrent derrière la femme. Gégec, qui s'employait alors à défaire le côté opposé de l'attelage, remarqua que l'un des deux vauriens musculeux cachait un gourdin dans son dos, tandis que son acolyte empoignait la garde d'un poignard. Gégec pressa Fanny d'enfourcher sans attendre le plus jeune des deux chevaux. « Gégec, donne-leur ce qu'ils veulent !» trembla Fanny. Mais il lui indiqua par un signe de monter à cheval, la tirant sans ménagement par le bras. Fanny jeta un regard en direction des truands et s'aperçut soudain que l'un d'eux avait disparu. Avant même qu'elle n'ait pu crier pour prévenir Gégec, ce dernier reçut un violent coup dans le dos et s'effondra par terre. Terrifiée, Fanny se mit à hurler. Essaya de monter en selle, mais elle fut assaillie par l'autre gaillard, qui tira sur le pan de sa robe et la projeta au sol. Gégec tenta de se relever pour la secourir, mais un second coup de gourdin s'abattit sur son crâne et le laissa inconscient. La brute épaisse écrasa l'épaule droite de Fanny avec le pied, lui ordonna de ne plus bouger. La respiration coupée, seuls ses yeux continuaient de suivre les événements. Entre-temps, le couple avait investi leur téléga, entrepris d'en vider les sacs. N'y trouvant aucun objet de valeur, ils se répandaient en jurons tonitruants. Par dépit, ils mirent les sacs en lambeaux et vidèrent les outres d'eau. avant que la femme ne parvînt à la caisse en bois pour y découvrir l'uniforme et le fût de Rome. Elle brandit triomphalement la capote militaire. « Radek, on a eu un soldat » cria-t-elle. La bande exulta et la brute qui avait molesté Gégé grimpa sur la téléga pour enfiler sa capote. Celui qui avait piétiné l'épaule de Fanny bondit lui aussi sur la charrette pour disputer ce qu'il restait du butin, arrachant une chemise, une écharpe d'officier, un pantalon et un ceinturon. Fanny tremblait. Les dents pourries de la femme dégageaient une puanteur partagée entre relents de kvass et de viande en conserve. « Avant qu'on le pende, je tiens à ce qu'il voie mes fils baiser sa pute de femme. » Ses deux rejetons beuglèrent de rire. « Sa pute de femme, elle est bonne, celle-là, maman. » À cet instant, Fanny aurait dû prier, pleurer, se mettre à hurler. Mais quelque chose la titillait. Ces pillards étaient-ils vraiment du même sang? Aucune chance. Cette femme les avait recueillis dans la rue, les avait élevés en parfait scélérat. L'un des fils la tirait déjà par les cheveux, tandis que son frère déchirait le col de sa robe. Puis ils la tirèrent sur le sol comme un animal. Instinctivement, elle se figura Tilliger, le pauvre chien à trois pattes, et porta sa main à sa cuisse droite où était sanglé son fidèle couteau de boucher. Tandis que le couple s'évertuait à réveiller Gégé qu'à grand renfort de gifles et d'eau, Fanny fut brutalement empoignée, forcée à se pencher sur la charrette. Fanny releva avec précaution sa jambe droite, dissimula sa lame le long de son bras gauche, plaqué contre son cœur. Celui qui avait eu gain du manteau militaire vint se coller à elle, lui laissant voir à présent l'expression de son visage. Ses traits noircis par la suie étaient entrecoupés par la lueur d'une dentition blanche et bien entretenue. Elle profita de son inattention pour observer minutieusement les veines qui battaient sous la peau de son cou et, sans marquer la moindre hésitation, lui trancha la gorge d'un geste prompt et précis. Je vous laisse avec Fanny, avec Gégec, avec les autres, poursuivre ce voyage étonnant dans cette Biélorussie de la fin du XIXe siècle, à la recherche d'un mari qui a abandonné sa femme, les tribulations de Fanny. En hébreu, Tikkun Achar Hatzot, bien évidemment la traduction ici, traduction un peu moqueuse, puisque la prière de minuit est une prière que l'on fait pour pleurer, pour déplorer la destruction du temple de Jérusalem. Mais ici, il s'agit d'une réparation, d'un tikkun, réparer l'honneur de sa sœur. Et l'auteur a pris un malin plaisir à déconstruire, évidemment, la locution hébraïque et à en faire la réparation d'après minuit.